BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on ouvre BFM Patrimoine, deux heures qui vous accompagnent, qui vous permettent d'être au cœur de votre monde patrimonial. Et tout de suite, un coup d'œil sur les marchés avec Antoine Larigauderi. Bon, du vert, mais pas de vraie conviction.
On s'attendait à mieux. Hein. C'est vrai qu'en avant-marché, on avait des signaux largement plus haussiers. Hein. Plus 0,26 pour le CAC 40 qui se maintient tout juste sur les 6000 points. Tiens, c'est peut-être pas un hasard. Ligne de flottaison, on est à 6001 points du côté des autres indices européens. C'est peut-être un petit peu plus affirmé. Plus 0,47 pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort. Plus 0,58%. On sentait qu'il y avait du potentiel pour un rebond. Déjà parce qu'on a fait un bond de plus de 4% en début de semaine, qu'on a consolidé hier avec du moins 0,9% sur le CAC 40 et qu'on avait du potentiel pour rebondir étant donné que Wall Street s'est retourné à la hausse et a terminé vraiment à l'équilibre. On a fait moins 0,2% sur le S&P 500. On était en hausse en après-bourse, on était en hausse en Asie. Oui, mais voilà, c'est à nouveau l'obligataire qui empêche les marchés de mieux performer. À noter que ça s'est quand même bien tendu sur la dette française à 10 ans. On est à 2,66%. Sur la dette allemande, on est à 2,06%. 378 pour la dette américaine, puis alors surtout ça y est, on est à 4,5% sur la dette italienne, c'est à nouveau le point de fixation, 4,49% pour la dette italienne, 10 ans. L'autre petit problème qui empêche les marchés d'aller un petit peu plus haut, c'est le pétrole, parce qu'on était à $90 en début de matinée hier, là on vient de reprendre $4 d'un coup, 93,94. On sentait que les décisions de l'OPEP de réduction en matière de production étaient globalement déjà dans les cours, mais qu'il y avait quand même une dynamique haussière qui se dessinait hier, elle se confirme aujourd'hui et donc on est à 94 quasiment pour le Brent et 88,27 pour le brut léger américain. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui résiste bien? Les valeurs plutôt défensives, si on regarde les plus fortes hausses du CAC 40, on a du Thalès, plus 2,18 à 117 euros, on a du Safran, plus 1,48 à 101,26 euros. Airbus, tiens, qui suit le mouvement et qui gagne 1,11% à 94,39 euros. Et puis sinon, Carrefour, plus 1,42% à 14,26 euros. On a Unibail, Rodamco, Westfield qui continue de se redresser, qui gagne 1,16% à 42,17 €. Mais on a pas mal de valeurs cycliques et bancaires qui commencent à décrocher un petit peu. ArcelorMittal qui perd 2,27% à 21,27 €. On vend l'ensemble du secteur des métaux. Lourd recul pour Eramet encore ce matin, moins 8,2% à 78 €. Puis les valeurs bancaires, je vous le disais, Crédit Agricole moins 0,7%, on est à 8,53 €. BNP Paribas moins 0,48 à 43,91 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Coface qui gagne 4,18% à 10,72 €. Le CAC donc sur une hausse un petit peu timide, 6000 points, pas plus, on est en hausse de 0,25%. Puis un petit coup d'œil sur l'euro-dollar, on avait des points de faiblesse du côté des 99 cents, mais on est vraiment sur le fil du rasoir à 99,07 € face au billet vert.
Antoine Larigauderi, que l'on retrouve chaque matin pour lire cette première heure de cotation. Et puis, les 6000 points, on les surveillera plus particulièrement tout à l'heure grâce à nos traders qui nous diront un petit peu quels sont les supports ou les résistances qui encadrent ce seuil plus visuel que technique. C'est en tout cas ce qui ressortait de leurs expertises ces derniers jours. Et tout de suite, l'info éco.
BFM Business, l'info éco. Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Elisabeth Borne le présente à la mi-journée. Objectif réduire de 10% la consommation d'énergie du pays pour éviter les coupures de gaz et d'électricité. Parmi les mesures qui vont être annoncées, le recours au télétravail, le covoiturage ou encore des coupures d'eau chaude dans les administrations. Bercy va recruter un négociateur pour aider les entreprises à signer leur contrat d'énergie. Il ciblera ses efforts sur les PME très énergivores qui rencontrent des difficultés au moment de renouveler leur contrat. L'alerte de Thierry Breton sur les conséquences de la flambée des prix de l'énergie pour les industriels. Certains d'entre eux sont très infectés par l'inflation. Le commissaire européen au marché intérieur appelle donc les États à se coordonner pour les soutenir. Il était l'invité de BFM TV et RMC ce matin.
J'appelle chacun des États à faire ce qu'il faut pour aider les secteurs industriels. On a beaucoup de secteurs industriels qui sont très dépendants de l'énergie. On peut penser à l'acier, on peut penser au zinc, on peut penser au papier, on peut penser à la chimie, on peut penser au verre, et donc qui sont très affectés. Et c'est très important parce que, évidemment, ça affaiblit notre compétitivité. Et au fond, certaines de ces entreprises vont peut-être être tentées eh bien, d'aller produire non plus en Europe, mais ailleurs. Donc depuis des mois, nous alertons sur ce point les États membres. Ils réagissent, c'est bien. Mais il faut le faire, évidemment, et c'est votre point, de façon coordonnée. Car le marché intérieur, c'est ce dont je suis responsable, eh bien, il fonctionne parce que nous avons des règles à peu près similaires partout.
Après la renationalisation d'EDF lancée hier, la filiale italienne de l'énergéticien serait-elle à vendre? C'est en tout cas ce que croit savoir Reuters. EDF pourrait décider de céder Edison, qui produit et distribue de l'électricité, une opération qui pourrait se chiffrer à 8 milliards d'euros. On en vient à cette évolution du droit du travail en France. Désormais, les salariés qui abandonnent leur poste seront présumés démissionnaires. Leur accès à l'assurance chômage sera donc limité. L'Assemblée nationale a voté des amendements en ce sens hier, amendements présentés par la majorité et LR. En Allemagne, les commandes à l'industrie chutent plus que prévu au mois d'août. Elles reculent de 2,4% sur un mois, contre une baisse de 0,7% initialement anticipée. Après S&P, l'agence Fitch abaisse la perspective de la note du Royaume-Uni. Elle passe de stable à négative. Pour l'agence de notation, les importantes baisses d'impôts annoncées par le gouvernement britannique pourraient entraîner une hausse significative des déficits budgétaires à moyen terme. Et puis c'est aujourd'hui la naissance de la Communauté politique européenne, la CPE, traduction concrète d'une idée lancée en mai par Emmanuel Macron. Elle rassemble les 27 membres de l'Union européenne ainsi que 17 pays limitrophes. Tous se réunissent à Prague donc aujourd'hui pour échanger sur des sujets d'intérêt commun comme l'énergie, le climat et la sécurité en pleine guerre en Ukraine. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, on vous retrouve Stéphanie à 11h pour suivre cette information économique et nous tout de suite on parle de vos placements.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Sébastien Féjean nous attend chez Idée Midcap. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Exaome. On est dans la maison individuelle.
Ouais, alors c'est pas forcément le secteur qu'on a envie d'acheter en ce moment, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est les marchés qui sont très compliqués, avec des perspectives économiques, évidemment, vous en parlez à longueur d'antenne, qui sont en nette dégradation, les taux qui remontent de manière très importante, donc comme le positionnement de Exaome est de vendre des maisons individuelles en terrain diffus, qui reste quand même le rêve de tous les Français, on se retrouve effectivement avec une société qui a connu un premier semestre difficile et des perspectives qui pourraient évidemment se durcir un peu.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du groupe ce matin ?
Alors c'est vrai que les résultats du premier semestre ont été très inférieurs aux attentes. Hein. On a eu donc une chute importante du résultat opérationnel lié notamment à l'activité qui est liée à la rénovation, mais également la hausse des coûts dans la construction de maisons neuves. Donc le groupe a eu du mal entre le moment où il a signé ses contrats pour construire des maisons de réimpacter effectivement l'ensemble des hausses tarifaires. Et donc on arrive à un effet qui devrait être plus positif au second semestre. Donc il y a eu une confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires de dépasser le milliard d'euros cette année. Mais c'est vrai qu'on est très prudent sur l'évolution de la rentabilité. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment quid de 2023-2024, puisque Exaome est très exposé à ce qu'on appelle les primo-accédants, donc des gens qui achètent des maisons qui sont à un peu plus de 100 000 euros, dans des zones qui sont pas tendues, hein, qui sont pas celles que nous connaissons en Île-de-France. Et donc c'est autant de sujets qui sont prégnants et sur lesquels on a un peu du mal à avoir de la visibilité.
Du coup, un mot des perspectives, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se présente devant Exaome ?
Déjà, on a effectivement, on commence à avoir des carnets de commandes qui baissent. Hein, donc c'est vrai que c'est ce qui nous a évidemment conduit, nous, à avoir une vision très prudente pour l'an prochain. Alors on a évidemment l'effet qui est intéressant, c'est le fait qu'on va passer des hausses de prix sur les ventes, donc on aura un effet prix qui devrait être positif pour 2023. Mais comme vous avez en fait 15 à 18 mois entre la prise de commande et la construction de la maison. Voilà. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait effectivement de la valorisation ?
Et oui, c'est ça, parce que est-ce qu'on y va ? À partir de quel prix on peut y retourner ? Enfin.
Ah ouais, c'est un peu la question, c'est-à-dire que vous avez actuellement en fait des multiples de valorisation qu'on n'a jamais vu sur le titre. On est en valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires à 0,04 fois. Donc au pire, en 2008, on était tombé à, je crois, 0,1 fois. En mars 2020, donc ils sont vraiment les deux marqueurs en termes de crise pour nous, et comme je pense pour l'ensemble de vos éditeurs, on était effectivement sur des niveaux qui sont pas aussi faibles. Et c'est vrai que on est voilà, enfin c'est une société qui ne se paye pas cher, qui n'a jamais en fait consommé de trésorerie, qui n'a jamais perdu d'argent depuis sa cotation. Mais le problème, c'est que vu les perspectives, on est peu enclin. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les gens qui ont une vision très long terme, ça peut être intéressant évidemment de se positionner aujourd'hui sur Hexahome, mais il faudra l'acheter et l'oublier. Et pour le reste, il faudra attendre évidemment qu'on ait voilà des signes plus positif de redressement du carré de commande pour commencer.
On est quand même sur les plus bas historiques du titre. À partir de quel moment vous vous diriez quand même ça se regarde ?
Bah, titre de comparaison, en fait, on avait eu, si on prend l'année 2012, 2011 et 2012 qui avaient été des mauvaises années pour Hexahome, finalement on avait eu un cours qui avait commencé à remonter à partir de 2012, un peu plus de 9 mois avant que les prises de commandes ne retrouvent la croissance. Donc ça veut dire qu'on va peut-être arriver à un moment où les investisseurs vont commencer à anticiper quelque chose qui va devenir plus positif en termes de momentum. Et donc il faudra évidemment regarder clairement quand le point bas va être atteint. Et si on arrive à le déterminer, et ben il faudra commencer à s'intéresser fortement à ce titre qui reste fondamentalement très intéressant. C'est une très belle entreprise.
Bon, donc du coup, recommandation quoi ? Est-ce que quand on regarde le consensus des analystes, il est plutôt à achat aujourd'hui et vous ?
Ah ouais, alors nous le problème c'est que fondamentalement on est acheteur, mais ça peut être ça peut rester très bas pendant très longtemps.
C'est ça.
C'est ça le problème, c'est qu'il faut juste avoir du temps. Et le problème de l'investissement, c'est que savoir effectivement quelle est la contrainte temporelle que vous avez. Et si effectivement vous avez une contrainte temporelle qui est très longue à 5-6 ans, c'est sûr que le prix actuel est très intéressant, même peut-être à 20 ou enfin peut-être à 30 ou 36 mois. Maintenant, ça peut, 2023-2024 peuvent être des années compliquées.
17,85, c'est le cours ce matin d'Hexahome qui grignote 0,28% dans un marché qui lui est en hausse, mais en hausse, on va dire, en hésitation, plus 0,12%, 5 992 points. Merci beaucoup Sébastien Feijan, donc Idée Midcaps ce matin.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Hervé Gouletker qui nous accompagne ce matin depuis Accuracy. Bonjour Hervé.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Demain tombera le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Que faut-il attendre de ce chiffre qui constitue quand même une sacrée boussole pour la Fed ?
Oui, c'est une boussole pour tout le monde. Ça doit donner le là en matière de tempo, de la croissance. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, ce à quoi il faut se préparer, c'est à une poursuite, faut-il dire du ralentissement, faut-il dire de la normalisation. Allez, employons le terme de normalisation, mais en évoquant que derrière cette normalisation, en fait, c'est un ralentissement. Il faut bien voir qu'il y a quelques trimestres, on créait 600 000 emplois par mois aux États-Unis, on est passé à 500, on tangente les 300 aujourd'hui. Il faut donc s'attendre à un ralentissement. Le consensus des économistes, pour ce que ça vaut, prévoit, je crois, 260 000 emplois. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est un ralentissement. Alors, et ce n'est pas spéculatif de parler de ralentissement. On a déjà des indicateurs qui vont dans ce sens-là. Par exemple, la durée hebdomadaire moyenne du travail est en train de ralentir. Le temps partiel accélère. Bref, le marché de l'emploi est sans doute moins dynamique, moins tonique, truand qu'il ne l'a été. Et puis, il faudra être attentif demain à quelque chose, évidemment, qui est aussi très important, c'est l'évolution des salaires, donc du coût du travail. Là aussi, il faut s'attendre à un ralentissement en relation avec cette normalisation. cet affaiblissement de la dynamique du marché du travail. Et on avait, il y a 48 heures, la fameuse enquête Jolt. Et dans cette enquête, ce qu'on voit, c'est que le taux de démission, donc les gens qui, par eux-mêmes, décident de changer d'employeur, est en train, ce taux de démission, de baisser. Et ça, habituellement, c'est un bon indicateur de ralentissement des salaires. Le ralentissement a déjà commencé. L'idée, c'est qu'il devrait, se poursuivre. Alors, c'est rassurant en matière de perspective de prix, mais sans doute pour passer du constat sur les salaires au constat sur la politique monétaire, il ne faudra pas être trop impatient. Ça va prendre un certain temps.
Alors, voilà donc pour le commentaire sur cette statistique. Mais il n'y a pas que cette statistique et cet environnement économique. Il est bien évidemment regardé, ausculté par le marché. Que faut-il penser justement du regard du marché sur cet environnement et du coup les implications que ça peut avoir en termes de politique monétaire, Hervé ?
Alors, c'est assez étonnant ce qui est en train de se passer. On a vu un marché... je pense alors au marché actions, je pense au marché obligataire. Quand on avait un mauvais chiffre économique, hein, une performance moins bonne qu'attendue, on voyait les taux d'intérêt à long terme baisser et on a pu voir sur les derniers jours des mouvements de 30 à 40 centimes sur un taux d'État à 10 ans américain ou allemand, donc des choses assez importantes. Et dans le sillage de la baisse des taux longs, eh bien, des séances sur les bourses, hein, parfois à plus de 2%. Donc des choses vraiment importantes. Donc, on avait l'impression que l'idée jouée par le marché, c'était de dire, tiens, la conjoncture est moins dynamique, peut-être va-t-elle se retourner. Ça va affaisser les pressions inflationnistes, elles vont devenir moins fortes et donc le resserrement de la politique monétaire sera plus faible. D'ailleurs, ça se voyait dans les taux futurs à 3 mois. Bon, qu'est-ce qu'il faut penser de cette chronique ? En apparence, elle paraît cohérente, mais faisons attention au maillon dynamique des prix, au maillon inflation. Si on peut penser que avec moins de croissance, l'inflation expliquée par la demande va ralentir. En fait, sur l'inflation expliquée par l'offre, eh bien, on n'en sait trop rien. Juste un exemple pour montrer qu'il ne faut pas aller trop loin en la matière, la décision de l'OPEP Plus de réduire à partir du 1er décembre sa production de 2 millions de barils jour montre qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises, des pressions haussières sur le prix du pétrole. Et dans ce cas-là, la dimension offre de l'inflation pourrait ne pas se calmer ou pas se calmer aussi facilement malgré une croissance économique qui ralentirait. Donc voilà, il y a des relations, des automatismes qu'il faut peut-être prendre avec un peu de prudence.
Merci beaucoup Hervé. Hervé Gouletker, Accuracy, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, lui, reste en hausse. On tourne autour des 6000 points. C'est un peu comme hier matin. Plus 0,3% pour le moment pour le CAC.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
BFM Business, BFM Patrimoine. La vie IMO.
Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
Les copros face aux coûts énergétiques, il faut préserver la trésorerie, c'est ça ?
Hey, c'est un peu compliqué. Alors du coup, j'ai appelé quelqu'un qui s'y connaît bien en copro, hein, Foncia, premier syndic de copro de France, alors qui surveille quand même. Alors je l'ai écrit comme ça, mais c'est vrai, hein, la situation comme le lait sur le feu, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que dans les copros, il faut le savoir, il n'y a pas de tarif réglementé en fait. C'est tarif de marché. Donc bah, parfois ça pique un peu. Alors oui, faut le dire quand même, les boucliers maintenant, les copros bénéficient elles aussi du bouclier tarifaire. Alors le problème c'est que elles, contrairement aux particuliers, elles doivent avancer les frais. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, alors je vais pas vous expliquer, c'est un crédit, machin, on s'en fiche, mais le fait est qu'elles doivent avancer les frais et qu'elles s'y retrouvent 4 ou 5 mois plus tard. Donc forcément, en termes de gestion de trésorerie, ça pose quelques petits problèmes. Ouais. D'où l'intérêt de s'y prendre un tout petit peu à l'avance, parce que effectivement, les charges s'envolent, hein, très concrètement. Chez Foncia, ils nous ont expliqué que globalement, ils avaient quand même été assez prévoyants, ils ont anticipé les choses dès le printemps dernier, au moment des AG, de la saison des AG, pour essayer justement bah, de faire des rappels de charges plus élevés pour pouvoir ne pas se retrouver dans une problématique réelle à l'instant T au moment du paiement. Donc là, ça va bien. Le fait est quand même qu'il y a en réalité des retards de paiement. Alors c'est les sommes dues en attente de paiement. On va pas appeler ça des retards de paiement, mais vraiment ça s'appelle comme ça, les sommes dues en attente de paiement, qui augmentent de 10% chez Foncia dans les copros par rapport à l'année dernière. C'est pas si énorme que ça, hein. Et d'ailleurs, on dédramatise beaucoup chez Foncia, parce qu'effectivement, il y a quand même une possibilité de s'organiser pour ne pas se trouver dans des situations très problématiques. Mmh. Pour autant, je vous le disais, la situation reste quand même inquiétante, parce que, je vous le disais, effectivement, les copros bénéficient du bouclier tarifaire, mais elles ont, un, ce problème de gestion de trésorerie, et puis, deux, la réalité, c'est que cette hausse des coûts, elle est plus forte pour les copros qu'elle ne l'est pour les particuliers. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, donc il n'y a pas de tarifs réglementés, c'est des tarifs négociés selon les prix de marché. Et souvent, c'est des tarifs négociés à l'avance sur des prix souvent très très faibles. Je vous parle de avant l'envolée des cours. Et donc, du coup, comme on négocie en gros, on a des prix plus faibles que les particuliers qui négocient au cas par cas. Ce qui fait que, par exemple, là, le bouclier à 64 € le mégawatt-heure, pour les copros comme pour les particuliers, ça n'a pas le même effet pour un particulier qui payait 50 et qui passe à 64 que pour une copro qui payait 20 et qui passe à 64. Alors oui, c'est moins que les 180-200 € du marché, mais on sent bien que pour les copros, il y a quand même de vraies difficultés en ce moment.
Et il y en a qui ont de la chance ?
Mais oui, parce que je voulais terminer par un truc heureux un peu, hein, les copros chanceuses. Ben oui, il y en a des copros chanceuses, parce que précisément, comme elles négocient à l'avance, parfois elles négocient sur des prix fixes, sur de longues périodes. Figurez-vous qu'il y a certaines copros qui ont négocié des contrats de plusieurs années à des prix fixes extrêmement faibles. Foncia me cite, alors elles sont pas majoritaires, hein, mais j'aime bien ce genre de jolie histoire. Foncia me cite cette copropriété de Saint-Genis-Laval, près de Lyon. 146 lots dans cette copro. Ici, on paye le mégawattheure 15,33 € depuis avril 2020 et jusqu'à avril prochain. Je vous rappelle les autres chiffres. C'est 64 avec le bouclier tarifaire et autour de 180-200 € sur le marché libre.
Ça va piquer en avril, quoi.
Ça va piquer en... sauf si les choses...
Sauf si ça revient dans l'ordre.
Bon, et d'ailleurs, d'accord. À ce propos, et j'en terminerai là-dessus, petit conseil de Foncia qui est un conseil, je pense, assez utile. Si vous êtes parmi ces copros pour l'instant plutôt
pas chanceuse,
ouais, et que vous êtes obligé de renégocier en ce moment, le bon plan, c'est de négocier des contrats courts, donc ne vous engagez pas sur 3 ans, là, pour le coup, indexé au prix de marché. Vous allez me dire, mais il faut être fou, indexé au prix de marché à 180-200 aujourd'hui. Non, parce que vous avez toujours le bouclier tarifaire qui vous protège. Et puis, si par hasard, on avait des bonnes nouvelles et une baisse des prix, bah là, pour le coup, vous deviendriez une de ces copros chanceuses.
Merci beaucoup Marie. On accueille maintenant Richard Tsipin. Bonjour.
Bonjour.
Pour Barnes, quelles sont les nouvelles tendances du marché de la collection automne-hiver 2022 du haut de gamme français ?
On va terminer l'année 2022 à un très bon niveau, puisqu'on est en progression de 10% en termes d'activité par rapport à 2021, qui était elle-même une année record, puisque vous vous rappelez que c'était l'année... conséquence du Covid qui, contre toute attente, a dynamisé le marché immobilier avec toutes ces résidences semi-principales qui étaient achetées en région. Donc, c'est une année 2022 qui va être très très bonne pour deux raisons principales qui sont d'une part, et c'est sans doute une grande explication de cette progression du retour des étrangers. Les étrangers, on les retrouve partout à Paris et en France. Donc, ce sont des étrangers. D'abord, c'est le rattrapage des Français, c'était l'année dernière. Le rattrapage des étrangers, c'est cette année. Donc, ils sont arrivés en masse un peu partout. Vous avez aussi les Américains qui sont là parce que pour eux, venir en 2022 acheter un bien immobilier en France et faire les soldes, c'est acheter à peu près à moins 30% par rapport aux années précédentes.
Donc, les stockages.
Il faudrait être fou pour ne pas venir en France avec les Américains. Ça. On a aussi des clients étrangers qui sont issus de pays à fragilité fiscale ou politique, comme les Libanais ou comme les pays de l'Est. Il y a des pays de l'Est qui viennent acheter à Paris aujourd'hui. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'étrangers qui reviennent en France et qui expliquent cette progression du marché. La deuxième notion que je retiens, qui est nouvelle pour moi aussi, c'est ce sont des marchés de report. C'est-à-dire que en début de semaine, j'étais à Deauville dans notre agence et ils m'expliquaient qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, donc cet afflux de clients, les prix sont montés très haut, le stock a baissé, donc il y a moins de choses à vendre, les prix sont très très hauts pour les nouveaux arrivants. Ça devient peut-être parfois inaccessible. Donc, on les emmène sur des villes voisines. À Deauville, on les emmène à Villers. On les emmène à Caen. On a même vendu une très belle propriété à un étranger, un Américain, à Caen. Il y a même un Français, qui, un Parisien qui voulait acheter à Deauville et on l'a emmené à Granville, 150 km. Donc, pour acheter une maison à 2 millions quand même. Hein, donc, c'est pas des petits prix. Donc, on voit bien que sur tous ces marchés, il y a les marchés de report.
Bon, alors moi, c'est ça. Moi, en vrai, c'est vraiment ce sujet-là qui m'intéresse depuis quelques mois. C'est sur ces nouveaux territoires du luxe. En fait, ça. Alors, on va d'abord parler du côté positif. Après, on va forcément aborder le côté négatif de la chose. Mais vraiment, vous n'êtes pas le seul réseau, mais Barnes en fait partie, à nous dire ben oui, il y a des endroits qui auparavant étaient plutôt connotés populaires et qui aujourd'hui deviennent des territoires de l'immobilier de prestige. Vous en avez identifié quelques-uns, je pense à Paris notamment, mais pas là typiquement l'exemple que vous nous donnez, oui. C'est marché de report. Oui. Ça fait qu'on a de nouveaux territoires du luxe. Est-ce que vous les avez bien identifiés, ces nouveaux territoires?
Oui, absolument. Alors, d'abord en région, effectivement, je parlais de Deauville, mais on peut prendre à peu près toutes les grandes villes. Je pense au bassin d'Arcachon où vous avez le Pila et le Café Ré, où vous avez des maisons en première ligne qui se vendent jusqu'à 10 millions. Donc ça devient quand même très compliqué pour le français, même un peu aisé, qui veut se faire plaisir. Donc il y a Biscarrosse, Lacanau, la Thèse de Buch, qui sont des endroits tout autour, qui commencent à prendre de la valeur et qui attirent cette nouvelle clientèle. Donc le côté négatif, on le connaît. On sait que pour les locaux, c'est compliqué d'acquérir. Mais le côté positif, c'est que ça attire de la clientèle, ça améliore, entre guillemets, l'urbanisme du coin. Et ça peut, on peut y trouver un côté positif. À Paris, ce qui est intéressant, c'est que nous faisons une étude sur le marché immobilier parisien. Elle est sortie il y a 15 jours. Et pour la première fois, et c'est nouveau aussi, pour la première fois, on s'aperçoit que le marché haut de gamme se retrouve dans tous les arrondissements parisiens. Donc avant, on avait l'habitude de parler du 16e, du 7e, du 6e, du Marais, etc. Ça reste le cas. D'ailleurs, ça reste le cas de façon assez exceptionnelle. Ouais. Parce que, je fais une parenthèse, on a un marché à deux vitesses sur le haut de gamme. Vous avez le très très haut de gamme qui continue à progresser. Il y a même un creux qui se réalise entre le très haut de gamme et le haut de gamme. Et cette année, on n'a jamais vendu autant de biens au-dessus de 3 millions d'euros. C'est-à-dire que 2021, on a progressé, pour vous ayez un chiffre, un ordre d'idée, de 67% par rapport à 2020. Et au premier semestre 2022, on a fait autant de ventes que toute l'année 2021 sur le segment au-dessus de 3 millions d'euros. Et on a été vendre des biens, en général, le très haut de gamme à Paris, c'est autour des 20-22 000 euros le mètre carré. On a vendu des biens à 40-46 000 euros le mètre carré, qui sont des biens uniques, hein. c'est pas le haut de gamme, c'est le très très haut de gamme. Ouais. Donc ce marché a explosé. Mais je reviens à ce que je disais sur les arrondissements qui étaient qualifiés de populaires à l'époque, donc je pense au 10e, au 11e, au 19e, qui sont des arrondissements de report. Le 11e, c'est le report du Marais. C'est-à-dire que le Marais monte à des prix de 16-17 000 euros le mètre carré assez facilement. Eh bien, on arrive dans le 11e à des prix de 11 ou 12 000, mètre carré, 12 000 euros le mètre carré, qui sont à 500 mètres du Marais, qui sont très sympas. Et pareil, le canal de Lourcq dans le 10e, c'est ouais. un report éventuellement du 9e. Vous avez le 19e avec des... Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que ça n'est pas tout l'arrondissement, évidemment.
Mais oui, dans le 19e, alors pour y être une habitante, hein, pour le coup, locataire, je tiens à le dire, hein, à tous ceux qui nous écoutent.
Mais dans un bien de prestige.
Mais dans, oui, non, pas vraiment, mais c'est moi le prestige dans le
oui,
bien.
C'est ça.
Mais effectivement, vous avez dans le 19e, vous avez les buts de Chaumont, la rue Manin, donc vous avez cet endroit qui est effectivement très familier avec de beaux immeubles, vous voyez des beaux appartements haussmanniens, etc., avec des belles terrasses. Parfois, vous avez même des quartiers où vous avez des petites maisons. Vous avez,
la Mousaïa.
Voilà, mais par contre, vous avez tout le 19e, oui. quartier Pont de Flandre, qui reste quand même oui. très populaire et où oui. on n'est pas du tout dans la même ambiance.
Pas du tout. Mais on trouve donc dans le 19e des îlots, ça se joue à trois rues près, ouais. mais des îlots où on vend des appartements, des maisons à 2, 3 millions d'euros à des prix de 11, 12, 13 000 euros le mètre carré. Et je dirais que ça évolue parallèlement à l'évolution de Paris, où finalement, on sait que c'est un enfer quand on circule en voiture. En revanche, quand on est piéton ou vélo, ça commence à devenir très sympa. Et on voit émerger dans des endroits parisiens, dans ces quartiers populaires, voire dans d'autres, des petites villes-villages, de quartiers, avec des restaurants, des terrasses et des machins comme ça. Et les jeunes aisés...
Ouais, c'est les nouveaux riches un peu ça.
Ouais, et même les étrangers. Hein. On a des étrangers qui trouvent ça très sympa, très parisien.
Et du coup, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais quelles sont les perspectives? Ça va rester très dynamique, très... Au perché?
Alors, d'abord, ce rattrapage des étrangers fait que cette année est exceptionnelle. Je pense que maintenant, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a une offre qui croît. Je pense que les propriétaires se disent, bon, c'est sans doute le moment de vendre parce que les prix ne vont pas progresser, vont rester stables, voire peut-être s'éroder pour certaines raisons. Donc, il y a une offre qui gonfle. Et les acheteurs sont toujours très actifs, sont là, on travaille beaucoup, hein, y a beaucoup de visites, mais sont plus raisonnables. Donc, ils vont prendre plus de temps, sont plus prudents. Donc, il risque d'y avoir quelques mois un petit peu mou, entre guillemets, même si ça ne va pas être dramatique. sur lesquels se grèvent des petits freins, par exemple un bien avec des travaux, c'est compliqué, parce que avec la crise ukrainienne, l'inflation, le coût des travaux, les délais, tout ça, alors que les travaux il y a deux ans c'était quelque chose qui plaisait, aujourd'hui c'est un frein. Le taux d'usure dont on a beaucoup parlé a pu être à un moment donné un frein, même si aujourd'hui il est débloqué. Les DPE par exemple pour les appartements locatifs aussi, ça peut être un frein, parce qu'il faut remettre en état l'appartement pour respecter les normes énergétiques. Donc tout ça fait que les mois qui viennent risquent un tout petit peu plus calmes que ce qu'on a vécu jusqu'à présent.
Merci beaucoup Richard Tipping donc d'être passé nous voir pour le réseau Barnes. Merci Marie, à demain.
À demain.
Pour la vie IMO, nous dans un instant, ce sont nos traders qui se penchent au chevet du marché parisien.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders qui auscultent le marché techniquement chaque jour, c'est la promesse de BFM Patrimoine. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez sont nos deux traders du jour. Bonjour messieurs, Jean-Louis
Bonjour.
Depuis Perceval Finance Conseil.
Bonjour.
Et Alexandre depuis IG. Alexandre, comment voyez-vous les choses, notamment avec ces 6000 qui font de l'œil aux investisseurs là. Ça clignote les phares.
Oui, ça clignote bien, et puis même en faisant un petit retour en arrière, il faut aussi voir que les zones support que le CAC a testé il y a quelques jours, avant ce gros rallye, elles ont tenu. C'est les fameuses zones dont on parlait les semaines précédentes, à savoir, même dans les phases de plus forte volatilité, on expliquait qu'il y avait un gros matelas technique d'anciens niveaux qui arrivait dans la zone 5006-5008, et c'est dans cette zone que le marché a pris appui pour essayer de repartir à l'assaut des 6000. Il y est parvenu, il est même passé un peu au-dessus, et là, ce qu'on observe ressemble effectivement à une phase de peu de digestion du mouvement. J'aurais quand même pas convaincu que le marché puisse comme ça repartir à 6,6, 6,7 en ligne droite. Je pense que ça fait partie du process qu'on devrait observer encore dans les jours et les semaines à venir, à savoir un ralentissement des phases de stress intense, des rallyes qui seront capés après quelques pourcentages de hausse pour continuer finalement à consolider cette zone basse. Mais je continue de penser que la zone 5006-5008 est une zone qui est adéquate pour cette consolidation parce que attaqué déjà à plusieurs reprises, en mars, puis en juin, puis une nouvelle fois là, récemment, avec un nouveau point bas qui a été repris depuis. Mais on observe quelques signaux intéressants en parallèle. Par exemple, on voit qu'il y a une bonne corrélation ces derniers jours entre ce que fait l'euro et ce que fait le CAC. Or, l'euro par rapport au dollar avait déjà beaucoup, beaucoup baissé. On était sur les niveaux des plus bas de plus de 20 ans. Et le fait de voir comme ça les taux américains lâcher un peu de lest, non pas qu'on pense que les taux américains peuvent se détendre massivement, ça j'y crois pas une seconde, mais que les taux puissent commencer à plafonner un peu côté US, notamment ces taux courts, le taux de 2 ans qui était monté à des niveaux de 40 quasiment, et qui a repassé ensuite vers les 4%. Voilà, je pense qu'on peut observer comme ça des phases un peu de consolidation sur la partie obligataire américaine, et donc un dollar qui sera un peu moins poussant à un moment donné, et ça participe parce que ça détend aussi un petit peu les taux réels, et ça participe à la bonne tenue du marché action. Et donc, pour que ça se dégrade à nouveau fortement, il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous avez un scénario géopolitique qui dérape complètement, et là, effectivement, on verra les points bas très probablement. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas raison que ça casse. Et ce qu'il faudrait aussi pour que ça dérape à nouveau sur les actions, c'est de voir, par exemple, des taux américains qui repartent beaucoup plus fortement à la hausse. Par exemple, sur une envolée des prix de l'énergie, ça ferait réagir les taux, vous voyez, ou sur des statistiques, chiffre d'inflation dans quelques jours aux États-Unis qui serait beaucoup moins bon qu'attendu, et qui rebondirait très fortement. Là, effectivement, ça ne plairait pas au marché. Mais ce qu'on écrit depuis des semaines, c'est qu'on voit des indicateurs de prix aux États-Unis. Il y en a encore un bel exemple hier dans l'ISM Service. On voit que la composante de prix de l'ISM Service retombe sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2021. Donc il y a bien un mouvement en sous-jacent sur les prix américains de ralentissement de la hausse. C'est pas encore des baisses de prix, mais c'est des ralentissements de la hausse. Et ça se voit, ça se traduit par les taux américains qui se stabilisent un petit peu et les taux réels aussi. Donc ceci étant dit, ça veut donc dire que pour moi, dans ce contexte-là, je ne vois pas de nouvelles reflambées comme ça des prix et des taux. Peut-être des à-coups comme ça où les taux remontent un peu, ce qu'on voit depuis quelques heures et ce qui fait un peu retracer le marché. Mais je continue de penser que la zone 5,6 est opportune. Voilà, et que donc, c'est des zones où on peut tenter d'acheter à chaque fois qu'il y a des creux dans cette zone, plutôt tenter d'acheter que d'essayer de vendre. Le risk-reward à la baisse, le ratio risque-prix par rapport à la récompense à la baisse, me paraît aujourd'hui et dans les semaines à venir beaucoup moins favorable qu'il y a quelques temps. Aujourd'hui, bon, c'est plutôt les phases consolidantes avant rachat qu'il faut observer.
Jean-Louis, comment voyez-vous les choses chez Perceval ?
Eh bien, Cédric, je cherche toujours à vendre le mieux possible, même si on est dans une zone un peu neutre. Donc, si on avait baissé un peu plus que ça, j'aurais tenté un petit achat vers 5970. Mais là, c'est vers 6050, il n'y a pas à hésiter. Alors, on a démarré très fort hein, cette séance, donc vers 6050-60. Et puis, on a perdu 1%, c'est-à-dire que entre 8h et 9h, moins 1%, et sans news particulière. Et depuis, c'est un peu mort, hein, parce qu'on est à 370 millions d'échangés. C'est vraiment un chiffre extrêmement faible. Alors, hier, les principaux taux souverains à 10 ans ont effacé une partie, si vous voulez, de leur repli. Les taux donc sont remontés, les marchés actions ont rebaissé, et donc on a rebondi avec, si vous voulez, l'OPEP, les bonnes statistiques US, etc. Alors, il faut imaginer que après les anticipations avortées de juillet, hein, alors celle-là a été énorme, et de septembre, on est passé de 6000 à 6004 pratiquement, on va dire qu'ils vont probablement réfléchir à deux fois avant d'aller trop loin dans ces anticipations. Et je pense que le moteur de ce marché, qui a été un espoir d'un assouplissement des politiques monétaires, comme l'a expliqué Alexandre, hein, c'est compliqué. Et puis, il y a encore du chemin entre ce que l'on voudrait et ce que l'on a déjà anticipé et la réalité. Donc, je pense qu'on peut continuer d'essayer de vendre jusqu'à 6160. C'est un niveau un peu reverse. Mais jusque-là, on va vendre. Alors, on vend pas n'importe comment. Il y a une pression technique très forte sur les marchés. Vous vous rendez compte, on a rebondi de quasi 8% sur l'Eurostoxx, parce que lundi matin, on est parti d'un contre-pied avec Crédit Suisse. Et donc, cette hausse, elle est quand même assez incroyable. Elle met beaucoup de pression sur les marchés. Donc, voilà, on devrait continuer d'être hyper hésitant. Et on doit se poser la question de la solidité de ce mouvement au-delà de 6050.
Merci beaucoup Jean-Louis. On vous retrouve tout à l'heure hein, Jean-Louis, 11h30 pour suivre cette séance. Merci également Alexandre Baradez. Depuis IG, le CAC grignote 0,22%, 5998 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
L'OPEP Plus a donc décidé de frapper très fort, moins 2 millions de barils par jour. C'est pas bon pour nous.
Ah ben non, c'est pas bon pour nous. Le baril a fait plus de dollars hier. On frôle les 94. On prend 12 dollars quand même en 10 jours. C'est pas totalement négligeable. Le principe est clair. L'OPEP Plus, je rappelle, les 13 pays du cartel traditionnel emmenés par l'Arabie Saoudite, puis leurs 10 alliés emmenés par la Russie. Tiens. Et donc, à compter du début du mois de novembre, on retire 2 millions de barils le jour sur le marché. Ça veut dire qu'on retire 2% du total de la consommation quotidienne de pétrole.
C'est l'équivalent de la consommation française, je crois, à chaque jour.
Je sais pas. La consommation française, c'est un nombre de barils. C'est 100 millions de barils le jour, je vois pas. Les Français, je sais pas combien on est exactement. C'est pas l'épaisseur du trait, c'est une très 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 grosse baisse de production. Oui, on réduit les quantités, on réduit l'offre, et si la demande recule, on maintient les prix, hein, c'est le principe. Faut voir quand même que cette OPEP+, c'est plus de la moitié des barils consommés sur la planète, donc c'est vraiment une force de frappe importante. En fait, du côté de l'OPEP, on se dit que le juste prix de 90-110 dollars, ça leur va très bien. C'est suffisant pour maintenir la rente pétrolière, puis c'est pas suffisamment élevé pour tuer complètement la demande. D'ailleurs, au passage, chaque euro de ristourne que le gouvernement accorde à la pompe, c'est un joli cadeau qu'on fait aux pays producteurs de pétrole. Après, il y a un mauvais signal économique quand même. Quand on décide de frapper aussi fort, ça veut dire qu'au sein de l'OPEP, on est vraiment convaincu qu'on va faire un fort ralentissement de l'activité, donc un fort ralentissement de la demande.
Et en bout de chaîne, les perdants, ce sont nous, les pays qui consomment du pétrole sans en produire.
Ah ben bien sûr, les Américains, eux, ils sont producteurs nets, donc ça va, exportateurs nets. Nous, c'est plus compliqué, donc c'est la triple peine en fait pour les Français. D'abord, qui dit brut plus élevé, dit prix à la pompe plus élevé. Je rappelle que sur 1 euro de carburant, 30 centimes, c'est le brut. 10 centimes raffinage, distribution et 60 centimes les taxes. 30 centimes, c'est quand même un tiers, donc c'est pas négligeable. Deuxième peine, c'est que la décision de l'OPEP, elle entre en vigueur le 1er novembre. Aïe ! C'est à la date pile poil où les 30 centimes de ristourne par litre du gouvernement deviennent 10. Ah, mauvaise surprise pour Bruno Le Maire. Parce que là, vraiment, choc des calendriers, on pouvait pas rêver mieux. Si tout d'un coup le prix à la pompe est vachement plus élevé et qu'on supprime, qu'on divise par 3 la ristourne, ça. La première semaine va piquer pour l'automobiliste en novembre. Et puis, la troisième peine, c'est qu'on a quand même toujours un euro qui est assez faible par rapport au dollar. On le dit chaque fois, mais le pétrole se paye en dollars. Plus l'euro est bas, plus la facture du pétrole est élevée. Il y a un gagnant, c'est la Russie. Hein. Eux, ils sanctuarisent les recettes d'hydrocarbures. Il y a un aspect politique dans cette décision. C'est quand même une décision pro-russe, d'une certaine manière.
Oui, c'est ce qu'a dit Joe Biden.
Hein. Après, on peut aussi... Il y a un autre scénario pour imaginer qu'il ne va rien se passer à la pompe, c'est une bonne récession mondiale avec une bonne demande qui s'écroule. Parce qu'on dit toujours, ah, la spéculation, c'est ça qui tient les... Ouais, enfin, la spéculation, quand on a mis l'économie mondiale sous cloche à l'hiver printemps 2020, le baril est tombé à 27 $. Donc c'est quand même bien l'offre et la demande qui pilote aujourd'hui le marché.
Vous évoquiez le gouvernement, comment peut-il réagir face à ce calendrier malvenu?
Ah, c'est embarrassant comme situation. Alors, je ne sais pas, on peut imaginer que le 1er novembre, il décide que les 30 centimes, on les garde jusqu'au 1er décembre pour éviter d'avoir le choc, le double choc. Le problème, c'est que c'est pas budgété, ça coûte de l'argent, toutes ces petites histoires. Après, il est vrai que dans le budget 2023, vous avez une poire pour la soif. Il y a 1,7 milliard d'euros ou 1,8 milliard d'euros qui ont été mis de côté, provisionnés, pour éventuellement pouvoir dégainer un nouvel outil carburant si c'est nécessaire. Alors, j'adore selon mes informations. J'adore cette expression. Ce serait vraiment là un truc ciblé rouleur, enfin les gens qui roulent et qui bossent. Par contre, ce serait pas sous condition de ressources, trop compliqué. Et en plus, il n'y aurait même pas la capacité de vérifier qu'ils roulent pour leur boulot. Enfin, au moins, c'est des gens qui ont un job et une voiture qui bénéficieraient de ce dispositif qui, pour l'instant, n'est pas prévu parce que tout ça dépendra des prix de marché à ce moment-là.
Merci beaucoup Nicolas Dose. La polémique du jour, le marché parisien, lui, menace maintenant cette orientation haussière. On ne grignote plus que 0,1%, 5991 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille Georges Delataille pour ActuSeed. Bonjour Georges.
Bonjour Cédric.
Vous nous avez beaucoup parlé de LinkedIn, mais c'est le seul réseau social pertinent en gestion de patrimoine.
C'est pas le seul. LinkedIn est le réseau incontournable. Je vous l'ai déjà dit, 22 millions de membres, plus de 11 millions de membres actifs en France. Donc, vous êtes dans la gestion de patrimoine, il faut être sur LinkedIn, il faut l'utiliser. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder toutes mes anciennes chroniques avec vous, mais ce n'est pas le seul.
Alors, quels sont les autres? Il y a Instagram?
Exactement, on va commencer par Instagram. Vous connaissez certainement très bien, vous partagez peut-être vous-même vos photos de vacances. Moi, je peux le faire, mes enfants, ma famille, tout ce qu'on veut. Mais c'est devenu un réseau très axé business et très axé vraiment pour faire du chiffre d'affaires. De très nombreuses marques aujourd'hui mettent en avant leurs produits sur Instagram et font plus de 80% de leur business dessus. On l'a très bien vu la semaine dernière avec la Fashion Week où il y avait des photos partout, mais moi qui ne suis pas dans la cible de toutes les marques. J'ai essayé de regarder, pour se dire finalement, est-ce que les CGP sont dessus? J'ai cherché, beaucoup cherché, j'ai eu du mal entre plus de 50 et vraiment en cherchant loin. Donc, les CGP sont très peu dessus. Mais j'ai trouvé des très belles histoires. Par exemple, j'ai l'exemple d'un cabinet qui s'appelle En Privé Conseil, fondé par une personne qui s'appelle Maëlle Caravaca. Elle a 3500 personnes qui la suivent. Donc, c'est déjà un réseau de bonne qualité. Elle publie en gros deux fois par semaine et elle indique dans un article de presse qu'elle fait plus de 80% de son nouveau business via Instagram et avec une chose très sympa, c'est qu'elle dit grâce à ça, je rencontre des clients sympas qui me ressemblent et qui fonctionnent bien avec moi. Alors, vous allez me dire, mais quel type de poste elle fait? Comment elle le fait? Elle fait deux choses. Elle fait des posts très pédagogiques pour aller expliquer toutes les choses compliquées de la gestion de patrimoine et de l'économie. J'ai écouté Nicolas Dose, elle pourrait faire un post pour expliquer comment ça se passe, la remise carburant, tous ces éléments-là. Premièrement, et deuxièmement, elle se met beaucoup en avant, où, je peux vous faire le jeu, mais elle sort son téléphone et elle se filme et elle raconte des choses, elle échange vraiment avec sa communauté pour se personnifier et vraiment se montrer le plus possible.
Bon, donc ça c'est Insta. Il y a YouTube aussi?
Ah, YouTube, il y a quelques mois, ou plutôt quelques années, je vous aurais dit jamais, c'est nul, ça sert à rien. Et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une toute petite web TV en gestion de patrimoine dans laquelle je fais une revue de presse tous les mois. Cette revue de presse, elle stagnait en nombre de personnes qui nous regardaient parce qu'au bout d'un moment, voilà, on avait touché notre cible. On a créé une chaîne YouTube. Pas de communauté, rien. Premier mois, une cinquantaine de personnes qui regardent. Deuxième mois, une centaine de personnes qui regardent. Et ainsi de suite. YouTube est un moyen inimaginable d'aller toucher des gens que vous ne connaissez absolument pas, qui vont juste taper des mots, genre gestion de patrimoine, etc. Donc, pour quelqu'un autour du monde de la gestion de patrimoine, encore une fois, vous prenez votre téléphone, vous prenez un rond lumineux, vous faites une vidéo très simple, vous expliquez des choses et vous pouvez toucher une cible que jamais vous auriez touché, des gens qui vont vous regarder et qui, du coup, in fine, auront envie de vous contacter.
Il y en a plein d'autres. Enfin, on ne va pas passer une demi-heure à tout égrener. Il y a les TikTok,
Alors, TikTok & Co, franchement, c'est certainement des réseaux très bien, mais point de vue à la gestion de patrimoine, je n'ai rien trouvé dessus. Je donne ma langue au chat, là.
Il y en avait un avec un costume très moulant et une Mercedes, là.
Oui, mais...
La question a été vite répondue.
Oui, mais lui n'était pas, à mon avis, donnait pas
Suisse,
la meilleure idée de la gestion de patrimoine. Il y a beaucoup d'escrocs et beaucoup de margoulins. Et bien sûr, il y a Facebook. Alors Facebook, ça marche très bien, ça cartonne encore. Et Facebook a deux avantages. Enfin, il y a deux moyens d'aller sur Facebook. C'est soit, bien sûr, vous de partager votre information, soit juste vous d'aller répondre aux questions. Il y a des millions de groupes sur Facebook d'entraide, de questions, de je ne sais quoi. Et c'est d'aller, vous, en tant que personnel, d'aller répondre aux questions des gens, d'aller apporter votre avis, d'aller mettre votre pierre à l'édifice. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a même un exemple qui est assez génial, un CGP qui a été encore plus futé. Il a carrément créé lui-même son propre groupe. Dans son groupe, il y a aujourd'hui plus de 10 000 membres. Et donc, grâce à ça, il s'est créé une communauté de 10 000 personnes qui le suivent, qui écoutent ses bonnes paroles.
Bon. Le panorama est terminé ou il y en a d'autres ?
Alors, la dernière chose qui est intéressante et qui est très à la mode, c'est les réseaux fermés. Il y a quelques années, il y a un réseau qui s'appelait A Small World, je ne sais pas si vous le connaissez, où tout le monde se battait pour être dessus, parce que soi-disant, c'était hyper cool d'être dessus. Il y a un réseau qui s'est lancé il y a un peu moins d'années qui s'appelle Gens de Confiance. Donc là, maintenant, il y a quand même plus d'un million de membres en France où, pareil, vous n'êtes entre guillemets qu'avec des personnes de bonne confiance.
Ouais. Ça, c'est plus connu pour les maisons de vacances.
Oui, mais de plus en plus, il y a des annonces professionnelles dessus. Donc, par exemple, il y a des CGP, des avocats, des experts-comptables qui mettent en avant leurs services. Et il y a aussi quelques réseaux fermés dédiés qu'à la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer Ocure, il y a peut-être d'autres qui vont se lancer. Le problème de ces réseaux fermés, c'est qu'un réseau social, on y va parce qu'il y a de la nouveauté, il y a des publications, etc. Et ces réseaux-là, il n'y a pas encore beaucoup de publications, donc on a moins envie d'y retourner. Donc, bon. C'est intéressant, mais il y a encore
à suivre, quoi.
Exactement.
Georges Delataille et Actucite qui nous accompagnent régulièrement dans ce monde digital de la gestion de patrimoine. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Le CAC 40 qui est juste sous les 6000, 5991 points, on grignote 0,1%, mais on limite un peu l'envolée du début de séance. Ailleurs en Europe, la tendance est un petit peu plus ferme, plus 0,3% pour l'Eurostox 50. Quelques arbitrages, Unibail qui gagne 2,4%, 42,69. Il y a du rattrapage après la journée d'hier. Thales, plus 1,44 à 116,15, ou encore Carrefour, plus 1,32 à 14,23 €. Voilà pour les plus fortes hausses du côté des baisses. Eh bien, ArcelorMittal perd 3,42% à 21,01 €. Capgemini à 169,80 abandonne 1,82%. Et puis Orange complète ce tiercé perdant avec une baisse de 0,86% à 9,24 €. Du côté des devises, l'eurodoll en ce moment est à 98,83. Et puis le pétrole qu'on évoquait il y a peu avec Nicolas Dose, 93,41 pour un baril de Brent de la mer du Nord.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Comme tous les jeudis à cette heure-ci, c'est Jean-François Filiatre qui nous rejoint pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Votre sujet cette semaine.
Eh bien, nous sommes la première semaine d'octobre et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la semaine mondiale de l'investisseur, une initiative pédagogique pour expliquer notamment les marchés financiers, avec en tête de pont en France l'autorité des marchés financiers qui est chargée de le gendarme de la bourse, chargée de la protection de l'épargne. Alors vous avez peut-être vu dans le Canard, le patron du gendarme devrait être bientôt à une gendarmette. Alors à mes yeux, la candidature qui est présentée par le président de la République et surtout celle d'une ancienne représentante du lobby bancaire. Donc on aura un banquier à la tête de la Banque de France, une banquière à la tête de l'AMF. Pour moi, c'est clair, si demain je dis du mal des banquiers, on va vite me cataloguer dans la catégorie des antis.
Bon, ben voilà, c'est dit. En tout cas, depuis que vous venez en plateau, on vous a catalogué aussi bien du côté des empêcheurs de tourner en rond et des pédagogues. Cette semaine, c'est peut-être l'occasion de faire de la pédagogie.
Ouais, ça va me permettre de rappeler les grandes lignes de la méthode de marché gagnant. Première question, Cédric, si je vous dis la bourse, c'est fait pour tout le monde, oui ou non ?
Je dirais non, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté.
Bah, en fait, la bourse, tout le monde peut y aller. Et en fait, il y a plein de gens qui y vont simplement parce qu'ils n'ont pas de thunes et qui veulent tenter d'en faire vite. Ça marche aussi, ou ça échoue d'ailleurs aussi souvent, par exemple avec les cryptos. Mais dans mon esprit, c'est autre chose, j'appelle ça du gaming. Alors, si l'on intègre la bourse dans une approche patrimoniale, ce qu'on aime bien chez Marché Gagnant, eh bien, on dit qu'on distingue l'épargne, comprenez l'épargne de précaution, et l'investissement, c'est-à-dire les sommes placées dont on n'a pas besoin du jour au lendemain. Donc, je pense qu'on peut aller en bourse. Une fois qu'on a quand même quelques noisettes pour les coups durs, reste à savoir combien. Cédric, votre chiffre.
Pour l'épargne de précaution, ouais. On dit 2 ou 3 mois d'avance, non ?
Donc, si vous gagnez 3000 euros par mois, il vous faut entre 6000 et 9000 euros d'épargne de précaution. Et alors, je vais vous donner deux chiffres qui vont vous surprendre. Le premier, je le sors du site Moneyvox. En moyenne, au mois de juillet dernier, les ménages français avaient sur leur compte courant 18000 euros. Et le second, c'est le profil des investisseurs qui ont été interrogés dans une étude qui a été commanditée par l'Autorité des marchés financiers il y a de cela 2 ans. Eh bien, dans cette étude-là, le montant de l'épargne de précaution moyen était de 50000 euros.
Oui, c'est donc un bel écart. Vous défendez quelle position ?
Eh bien, je vais vous faire une confidence. J'aime pas la pédagogie doctrinale. Genre, il y a une vérité et c'est pas autrement. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, dans nos matières, il n'y a pas de vérité stable dans le temps. Vous connaissez la petite musique qui nous dit un placement à long terme rapporte plus qu'un placement à court terme. Eh bien, que va-t-il se passer cette année ? Eh bien, vous allez regarder le taux du livret A, placement à court terme par excellence, qui va rapporter plus que le fonds en euros, son alter ego à long terme. Et bing, toute l'éducation financière perd d'un coup en crédibilité. Mon deuxième sujet, c'est un sujet d'efficacité. Pourquoi ? Parce que pourquoi je parle ? Dans la logique de faire évoluer les comportements et d'être utile aux auditeurs et aux téléspectateurs. Si c'est juste pour parler, franchement, je n'ai pas besoin d'une caméra, une glace dans ma salle de bain me suffira largement. Donc, il faut pouvoir être entendu. À votre avis, Cédric, si je dis à quelqu'un qui a 50 000 euros d'épargne de précaution que finalement, ce serait pas mal d'en avoir que 6 000, est-ce que j'ai une chance qu'il bouge ?
Non, a priori, je ne pense pas.
Et voyez-vous, ça me permet de faire quand même une autre petite parenthèse puisqu'on parle de pédagogie. Pourquoi faire ce travail ? Pas pour faire le gourou et pour donner des recettes miracles. En revanche, il s'agit d'apporter des éléments et d'inciter les épargnants à réfléchir, à apporter des solutions. Et soyons clairs, ce jeu, il ne peut se jouer qu'à deux. Et là, il faut mettre les épargnants, vous, qui nous écoutez, face à vos responsabilités. J'ai vécu pendant quelques années dans un journal qui s'appelle « Mieux vivre votre argent » et qui avait une rubrique qui s'appelait « Les finances d'une famille ». Bref, la rédaction va voir un ménage, regarde ses problèmes et lui fait des recommandations. Alors, je l'ai faite plus d'une fois, cette rubrique. À votre avis, quel est le taux de suivi des conseils ?
La rédaction de « Mieux vivre », c'était très reconnu, donc j'imagine que vous étiez bien accueilli, enfin que c'est suivi.
Eh bien, la réalité est beaucoup plus nuancée. Pourquoi ? Ah. Parce qu'en fait, les épargnants, ils vous invitent pour que vous les confortiez dans leur choix. Et... De la même façon, pourquoi lit-on ce qui reste de la presse boursière ? Pas pour investir dans toutes les valeurs recommandées toutes les semaines, parce qu'il faudrait être Bernard Arnault pour avoir le pognon pour le faire. Non, on cherche de la réassurance. On se limite donc à regarder de l'information pour être conforté dans ses choix. C'est d'ailleurs partant de ce principe que dans nos méthodologies, on a beaucoup intégré chez Marché Gagnante les logiques de finances comportementales.
Bon. L'épargne de précaution, on a 2 bornes, 6 et 50 000. Vous mettez le curseur où ?
Je pense que dans la très grande majorité des cas, un livret A rempli est un maximum pour un ménage. Ce qui, en pratique, devrait nous donner une moyenne un peu plus basse que les 18 000 euros. Parce que c'est triste à dire, mais il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas les moyens de mettre cet argent de côté. Donc, partant d'ailleurs de ce principe, la coexistence entre le livret A et le LDDS est une hérésie du système, tout comme d'ailleurs la possibilité d'ouvrir un livret A pour les petits-enfants.
Oula, vous n'allez pas vous faire des amis.
Non, mais je vous rassure, je peux y aller parce que ça ne va pas bouger. La Cour des comptes vient d'ailleurs de regarder le sujet. Elle écarte la mise en place d'un plafond global au livret A et au LDDS, car ce serait une usine à gaz. Et elle écarte la fusion des deux produits, car l'appellation LDDS, accrochez-vous, permet d'afficher qu'une partie de l'épargne est fléchée vers des objectifs à forte portée politique. En revanche, bonne nouvelle, la Cour des comptes nous dit qu'il faut écarter l'idée d'une fiscalisation de ces livrets.
Alors, dans votre méthode, tout ce qui n'est pas épargne de précaution est donc investissement, on l'aura compris. Et sur cette partie, vous avez mis au point une méthode qui est disponible sur Marché Gagnant pour déterminer la part d'actions qu'on doit avoir en portefeuille.
Ok, je pourrais vous embaucher pour faire la promo, mais l'heure tourne. Donc, on va effectivement tenter d'avancer. À votre avis, quelle est la première question à se poser pour aller en bourse à ce stade? À notre stade d'avancement là.
Quelle valeur acheter ?
Non, mais je vais être retort. Qu'est-ce qu'on dit traditionnellement sur la fiscalité dans le monde de l'épargne ?
Que c'est la cerise sur le gâteau, le dernier critère à regarder.
Eh bien, dans notre cas, dites-vous qu'en bourse, la bourse c'est un peu comme une tarte tatin. Le premier critère à regarder quand on va en bourse, c'est l'enveloppe fiscale où on va opérer. Pourquoi ? Parce que si vous optez sur le compte titre ordinaire, ce que font beaucoup de nouveaux venus, chaque fois que vous allez faire une opération, vous allez vous soucier du prix de revient, des incidences fiscales, etc. Perso, je pense que compte titre ordinaire et PEA sont complémentaires, mais majoritairement, l'investissement boursier doit se faire sur un bon vieux PEA classique.
Bon, vous nous restreignez du coup l'univers d'investissement, là ?
Un beau jour, Cédric, j'ai cherché une aiguille dans une meule de foin. Et voyez-vous, je ne l'ai jamais trouvée. Et depuis ce jour-là, je sais que la gestion patrimoniale et la gestion financière, ce n'est pas à trouver le meilleur produit au meilleur moment. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais souvent ce n'est que du bol et c'est donc difficilement reproductible. En revanche, il faut se donner les moyens de réussir sans forcément chercher à être le meilleur. Donc pour faciliter le suivi, par exemple, nous chez Marché Gagnant, on suit seulement un panel de 60 valeurs.
Et du coup ?
Alors deux, trois conseils. Un, déjà sur le cadre général, elle est faite pour ceux qui n'ont pas envie de passer des journées à faire ça, parce que sinon c'est ingérable. Deux, pourquoi on va en bourse ? On va en bourse en fait principalement pour des raisons de diversification. Pourquoi ? Parce que on a trop d'immobilier et on a trop de fonds en euros dans son patrimoine. Vous remarquerez, à aucun moment, je vous ai dit, il faut aller en bourse parce que c'est le placement le plus rentable à long terme.
Pas encore.
Et trois, il faut diversifier son portefeuille. Est-ce que vous savez, par exemple, que 38% des actionnaires individuels ont moins de 6 titres en portefeuille ? Nous, dans notre méthodologie, c'est 10 lignes. Et 10 lignes à pas choisir au hasard, parce que si vous mettez du LVMH, du Christian Dior...
Choisir au hasard, c'est ce que vous m'avez fait faire.
Oui, mais avec des contraintes sectorielles. Parce que si vous avez des lignes en disant « Je mets du Christian Dior, du LVMH, du Kering, du L'Oréal et du Hermès », en fait, on va pas être diversifié.
Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on se dit ?
On se dit qu'il est l'heure et que vous espériez que je vous donne les résultats du portefeuille pour le mois de septembre. On fera ça tout à l'heure.
Il prolonge la chronique dans les questions.
Dans les questions-réponses. Et je le dis tout de suite, ça va être très intéressant parce que les résultats sont mauvais.
Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Filiat, Marché Gagnant. Dans un instant, un détour par les marchés. Regard croisé à suivre. Et vous n'oubliez pas les podcasts qui vous permettent de nous retrouver à tout moment sur le site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.